RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux consacré aujourd'hui à la 24e journée de Top 14. Il ne reste plus que 3 matchs avant les phases finales et comme la semaine dernière, on va se concentrer sur les 3 affiches qui seront les plus décisives pour le classement final. Focus donc sur Pau Clermont, Castres Montpellier et La Rochelle Toulouse. 3 rencontres où tout peut encore changer. Et pour évoquer ces 3 matchs, Julien Landry et Wilfried Templier sont là. Salut messieurs.
Tu vois, on a eu une bonne idée la semaine dernière, sans l'accord du chef.
Ça a été validé par le chef, visiblement.
J'ai bien aimé. Il faut prendre les initiatives, c'est bien. C'est bien, bravo.
Merci. Bravo. Merci.
Évidemment, c'est important de parler de tous les matchs importants.
Voilà. Évidemment, tout à fait.
Non pas que les autres ne le sont pas, mais c'est ce qu'on a expliqué
non,
la semaine dernière.
Voilà.
Non, pas que les autres ne le soient pas.
Ah, ça commence. Ça y est, 30 secondes de podcast.
Non, mais la formule me rappelle les petites envolées lyriques.
Justement, le programme, on va vous le détailler. 14h30, donc Pau Clermont pour ouvrir cette 24e journée de Top 14, suivi du multiplex à 16h35 avec Castres Montpellier, Lyon Bayonne, UBB Perpignan et Montauban Stade Français. Donc ces 3 dernières rencontres. Lyon-Bayonne qui sera peut-être un peu serré, mais qui a moins d'enjeux puisque les deux équipes ne jouent plus grand-chose. UBB, Perpignan et Montauban, Stade Français, où là, il y a peut-être un petit peu moins de suspense. À 21h, samedi, Racing, Toulon. Et dimanche, pour clôturer cette 24e journée, donc La Rochelle, Toulouse. Un petit point sur le classement, messieurs. Toulouse, justement, est toujours en tête avec 82 points. Montpellier, deuxième avec 70 points. Et Pau, complète le podium avec 69 points. Le Stade Français est juste derrière avec 68 points. Clermont, cinquième. Et l'UBB, sixième. Et en outsider, le Racing, septième, 2 points derrière Bordeaux. Et La Rochelle à 58 points. Et derrière, on retrouve dans l'ordre Toulon, Castres, Lyon, Bayonne, donc, qui n'ont plus rien à jouer, je le disais à l'instant. Et enfin, Perpignan, condamné à jouer l'Access Match et Montauban, officiellement relégué en Pro T2, d'ailleurs Wilfried, depuis le week-end dernier.
Oui, pas une surprise.
Non, pas une surprise. Tout à fait. On va commencer, messieurs, avec Pau Clermont. Un match, Wilfried, ô combien important pour les deux équipes, puisque Pau joue encore la deuxième place, tandis que Clermont joue sa place dans le top 6, tout simplement.
Un match, Julien sera d'accord avec moi, énormissime en fait. En se penchant dessus, là, je trouve que c'est...
même le plus gros du week-end pour moi.
Ah, cette affiche me fait saliver, mais de manière incroyable. Alors déjà, et honneur à Pau quand même, parce que je regardais, ils ont 21 points de plus que l'année dernière, les Palois, au même moment de la saison. Ils en étaient à 10 victoires et 13 défaites l'année dernière à ce moment-là. Là, ils sont à 15 victoires et 8 défaites. Franchement, c'est... personne. Alors, c'est encore mieux pour l'anecdote et pour les chiffres. Le Stade Français a pris 31 points de plus cette année. Ils ressortent encore plus de nulle part. Mais quand même, qui, en début de saison, aurait misé pour, à 3 matchs de la fin, que les Palois jouent les deux, attention, pas la qualif, les deux premières places. Est-ce que le Grenet de Montpellier l'aurait misé? Les deux premières places, je dis.
Non. Mais comme Montpellier, il était évident que Toulouse et Bordeaux semblaient... abonné à cette place-là. Et peut-être Toulon, pour moi la déception de Toulon, mais et Montpellier et Pau sont les deux grosses surprises, et Paris finalement, il y a 3 grosses surprises pour la deuxième place en...
C'est
en
vrai. Donc, c'est quand même la dernière équipe invaincue à domicile, quoi. C'est... Alors, pas tout à fait, tu vas me dire, c'est
oui, ça, exactement. Roxane, oui, mais j'ai... Hein, tu lis dans mes pensées, Wilfried.
Ou dans ton conducteur.
Ou peut-être. Oui, non, invaincu en top 14, parce qu'ils ont vécu deux défaites à domicile, mais c'était contre les Blue Bulls. Et
non,
contre,
mais ils n'ont pas joué la compétition, en fait. Donc, il faut le souligner aussi, parce qu'il y a des clubs qui la jouent et qui tirent plus la langue. Donc, voilà.
C'est un choix qu'ils ont fait.
À raison, certainement, pour construire leur équipe, pour construire leur chemin, leur cheminement pendant plusieurs saisons, en fait. Peut-être que première année comme ça, il ne faut pas perdre toute l'énergie.
Julien, on en avait parlé. Pour les supporters, c'est peut-être un peu frustrant quand ça fait autant d'années qu'on n'a pas joué la Coupe d'Europe. Mais au final, quand tu vois le résultat à la fin de la saison, et où Pau est placé,
ils n'ont pas joué. Il y a vraiment un match.
Ils ont perdu
d'entrée à l'extérieur.
Ils ont perdu d'entrée contre Northampton.
Ils font un gros match en plus. Ils sont pas loin de le gagner. Le premier match contre Northampton, ils font une grosse performance où ils sont pas loin de le basculer. Le gros échec de la campagne européenne, c'est les 60 points pris à Bristol la semaine suivante. C'est là l'accident. Et c'est là où ça fait mal un peu pour les supporters, parce qu'après, finalement, ils vont gagner à Clanecly et ils perdent que de 2 points à la dernière journée contre les Blue Bulls, donc ils sont pas loin de se qualifier. Mais le vrai accident dans le parcours de la section, c'est les 60 points pris à Bristol, où là vraiment ils avaient lâché. C'est celui-là qui fait tache dans la saison paloise, mais peut-être qu'à raison, effectivement, ils ont eu raison de pas aller jusqu'au
Est-ce
bout.
Est-ce que
pour
ça
se
fera vraiment tache si tu es qualifié pour les phases finales?
Évidemment,
pas forcément.
Bien sûr que non. Mais à ce moment-là, ça avait fait mal aux supporters palois de prendre 60 points à Bristol.
Ouais, forcément.
Donc c'est la dernière équipe invaincue à domicile, puisque le Racing a perdu la semaine dernière contre La Rochelle. Et en regardant leur prestation à domicile, quand même, je refaisais un peu la saison, quoi. Ils battent le Stade français 34-10, ils battent Toulouse 30-26, ils battent La Rochelle 53-33, Montpellier 35-33, un match qui a laissé beaucoup de regrets à Montpellier, et ils mettent 39-17 à l'UBB quand même, quoi. C'est tout au long de ces mois, la section paloise, qui au passage, en regardant les stats aussi, est l'équipe qui met l'adversaire le plus à la faute de ce top 14. 65 pénalités obtenues, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que pour à une production, et moi j'ai pour les avoir vus plusieurs fois, Julien certainement toi aussi, ils ont parfois été caméléons, quoi. Ils ont su être bons devant, ils ont su évidemment dans leur production de jeu, dans leur ligne de trois quarts, dans leur jeune et folle ligne de trois quarts, faire un jeu magnifique aussi, mais aussi s'adapter. Mais je suis curieux de voir ce match parce que Clermont, c'est une référence aussi devant, c'est un de leurs gros points forts. Donc on reparlera des compos et on a dû réfléchir à ça côté palois, parce que vous verrez que dans les compos on a prévu un peu des choses par rapport à ça. Pau passe. Alors il pourrait être Toulouse est pas invaincu à domicile, mais reste la meilleure équipe à domicile à la faveur des bonus, 10 bonus sur leur match à domicile. Mais Pau, s'ils gagnent ce week-end, ils passeront devant le Stade français qui joue qu'un match encore à domicile et dans les trois derniers. Et donc voilà, ça veut dire quand même quelque chose de leur force aussi, Julien, au hameau où ils disent tous qu'il se passe quelque chose dans l'ambiance, dans le territoire de la vallée d'Aussaut.
La vallée d'Aspe
et compagnie.
Ça fait longtemps.
Non, mais c'est vrai qu'on peut les croire parce qu'ils sont, Julien, ils sont au début de cette histoire. Donc les gens sont comme des fous, certainement, à Pau. La Rochelle l'a vécu avant d'avoir les titres européens. Quand votre club revient au très très haut niveau et que ça sent le goût de l'exploit sportif, il y a quelque chose qui se fabrique à Pau, quoi, en ce moment, en fait.
Non, mais c'est clairement. Alors après, pareil, je pense que ce match-là, moi, il m'excite aussi parce que finalement, dans le parcours de la section paloise cette saison, j'ai parlé de Bristol en Coupe d'Europe, mais en top 14, ils ont explosé à Clermont au match aller. Ouais. Ils avaient explosé à Toulouse dans ce fameux match où ils avaient décidé d'aller se tester face à Toulouse. C'était peut-être pas une bonne idée, mais après, ils ont beaucoup existé à l'extérieur. Et ce match à Clermont, finalement, au tout début de saison, le 20 septembre, ils avaient pris 50 pions du côté de Clermont. Avec la grosse équipe paloise, il y avait déjà Grand Didier, Arfeuille, Gaëton, Broboiri, Atsogbe, ils étaient tous là derrière. Donc je pense que dans la progression de la section paloise contre Clermont demain ou samedi, si vous écoutez le podcast samedi, c'est un vrai test pour les palois parce que c'est typiquement une équipe que Pau n'aime pas forcément jouer. Ça ressemble un peu à Montpellier d'ailleurs, parce que donc ils vont s'affronter Clermont là et Montpellier. Deux équipes très denses devant et c'est aussi voir si la section elle a progressé dans cette capacité à être fort devant, parce que dans les axes de progression de la section, il y avait évidemment ça. Progresser sur le jeu au sol, progresser sur la conquête. Ils sont aujourd'hui ultra performants en touche, notamment avec Oradou, où ils ont l'un des meilleurs contres en touche du top 14. Ils deviennent performants en mêlée. Mais voilà, contre Clermont, qui vient jouer aussi une grosse part de sa qualification, ça va être un gros test pour les Palois. Et pour revenir à ce que disait Wilfried, oui, à Pau, il se passe quelque chose en ce moment. Mais depuis que Piccheroni est arrivé, tu parles évidemment, alors vous vous moquez, mais du territoire et des valeurs paloises. Mais non, mais c'est vraiment mis
on
en avant.
Pas,
non, mais alors évidemment, avec la Unia Ada en début de match.
On a eu un béret sur la tête pour savoir ça.
Non, mais les Palois s'y retrouvent dans ça. Il y a parfois, dans
bien
beaucoup
sûr.
De stades.
L'identité, c'est important, on l'a toujours dit, Julien.
Oui, non, mais il y a dans beaucoup de stades où ils essayent aussi de créer, et c'est très artificiel l'avant-match avec les chants. Rien que pour en venir à Montpellier, la chanson qu'ils mettent en avant-match de Ricoun, il n'y a pas d'identité.
C'est
plus le folklore.
Plus.
Oui.
Non, mais c'est plus le folklore. Il y a des vraies identités. Il y a l'Estac à Perpignan. Il y a la Uniada, il y a la Peña Bayona, voilà, il y a des endroits où c'est vraiment identitaire. Et pour le coup, les Palois s'y retrouvent. Et c'est vrai que c'est important pour eux et qu'ils créent quelque chose autour des rencontres, autour de ce match-là. Et c'est très beau en plus, voilà. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Même et en nous, plus, nous n'avons pas cette identité-là. Trouvons ça très beau. Voilà.
Ces rencontres, ces rencontres, Julien, t'en parlais contre Clermont et Montpellier, qui vont peut-être un peu se ressembler sur le jeu, en tout cas, qui va être proposé par les adversaires. C'est aussi des jeux qui vont leur permettre de préparer les phases finales, qui se jouent quand même. On le dit assez souvent, qui se jouent souvent devant. Donc, c'est des matchs aussi de préparation pour les autres matchs à venir en phase finale.
Ah là, ça sent la phase finale. Hein. Lui, hein,
c'est oui, c'est ça. De la bergasse.
C'est si me tarde, moi. Vas-y, Julien,
vas-y, vas-y. Non, vas-y, t'es parti. Vas-y, va jusqu'au bout.
Mais non, non, mais après, c'est
pour l'intégrale.
C'est vrai que on a cru à des moments que Pau ça couinait un peu, voilà, c'était moins limpide, c'était voilà, parce que c'est très long une saison de top 14 et finalement ils sont toujours là à la lutte pour les deux premières places. Donc même la semaine dernière face à Castres, ils n'arrivent pas à tuer vraiment le match. Ils auraient pu le tuer beaucoup plus tôt. Donc là, ça va monter d'un ton avec l'ASM et on peut enchaîner d'ailleurs Roxane sur l'ASM quand même, parce que Julien le disait, c'est un très gros pack l'ASM qui est sur trois victoires de suite. Malgré tout, il y a une victoire évidemment de prestige au Stadium à Toulouse, mais il y a des victoires sur Lyon et l'USAP qui sont plutôt du bas de tableau. Voilà, donc c'est aussi pour Clermont, si Clermont vient gagner là, ils valident à coup sûr leur... Enfin, même si... Alors, ils ont un calendrier de fou, hein, parce qu'ils reçoivent le Racing et ils vont à l'UBB. Donc, mais bon, ils font un très grand pas vers la qualification. Et pour eux, d'aller frapper encore très, très fort dans deux rugby... Même s'il y a de la production de jeu, on ne va pas être caricatural avec Clermont, hein, mais on pense plus à leurs avants quand on pense à eux et Pau plus à leurs trois quarts. C'est un peu caricatural, mais voilà, avant les phases finales, Julien, je suis vraiment curieux de voir la réaction du pack palois face au Clermont, toi.
Voilà, mais pour moi, c'est un vrai test pour les Palois. Je pense que pour eux, alors déjà, s'imposer contre Clermont, ben, eux, ça leur valide la place dans le top 6 aussi, officiellement. Ils seront qualifiés officiellement pour les phases finales. Donc, ils ont tous les mêmes discours. On en parlera avec Montpellier à Pau. Pour le moment, personne ne veut parler du top 2 dans ce top 14. Ils disent tous, on veut se qualifier pour le top 6 et après, l'appétit vient en mangeant. Mais si Pau s'impose contre Clermont, Pau valide officiellement sa place dans le top 6. Et après, pourra avoir des ambitions en allant donc du côté de Montpellier dans 15 jours, avant en plus de finir contre Montauban à la maison. Donc les Palois peuvent se dire
Là, c'est oui, all-in sur les deux prochaines rencontres. Bah,
c'est-à-dire que les Palois, ils se disent que s'ils gagnent contre Clermont, ils ont peut-être un boulevard pour au minimum recevoir un barrage à domicile. Ça sera quasiment officiel pour eux. Ils seront forcément 2, 3 ou 4, ou voire même du coup directement qualifiés en demi-finale. Donc
ouais, c'est ce le match de demain pour la section. Montpellier vaudra très très cher également.
Oui, alors après évidemment.
Non, mais c'est. Je veux pas dire que Montpellier ou le Stade Français va gagner. Ils vont gagner tous leurs matchs non plus. Hein.
C'est pour ça. Mais je pense que dans la construction de la section, il est important aussi parce que voilà, on dit que c'est une équipe jeune qui a pas d'expérience du tout des phases finales, parce que aucun des joueurs n'a joué de phase finale, et on le rappelle. C'est aussi du coup, et Wilfried le sait pour suivre des clubs qui ont l'habitude de jouer des phases finales, c'est des atmosphères particulières. Moi je l'ai vu pareil, tu vois, avec Montpellier qui n'a pas l'expérience des phases finales. Cette demi-finale contre Newport, elle est affreuse. Pourtant, tout le monde avait dit qu'ils vont défoncer les Gallois, mais ça reste des matchs particuliers. Et je pense
que
Clermont,
n'est pas la même, là.
Exactement, et que Christophe Furios, lui, il les a joué les phases finales avec Castres, avec Bordeaux, avec Oyonnax même, où ils avaient réussi à s'imposer en barrage. Donc voilà, Christophe Furios, il sait préparer ces matchs un peu... Parce que voilà, on vante la section paloise, mais ça va être des matchs un peu plus fermés, où il va y avoir de la stratégie, où,
ouais, c'est où ça pour va ça être que beaucoup plus difficile à jouer. C'est des matchs qui vont les aider à préparer ces phases finales.
Exactement. Et c'est un bon test pour les Palois, et on l'a dit, et devant, et dans cette capacité qu'ils vont avoir à gérer l'événement. Parce que c'est des matchs de phase finale que jouent aujourd'hui les équipes. Bah, clairement, ils savent que s'ils perdent, ça va être compliqué pour le top 6. Et Pau, ils savent que s'ils perdent, ça va être compliqué pour avoir un barrage ou mieux en fin de saison. Donc, c'est déjà des phases finales qui démarrent ce week-end.
Non, il s'était pas imposé juste pour Oyonnax, c'était pas imposé en barrage. Il avait été en barrage, hein, il me semble.
Oui, il avait été
Toulouse,
en barrage.
D'ailleurs, Ernest Vallon, ils avaient fait douter Toulouse un moment en plus.
Ouais, c'est ça. Ils avaient
dans ce match qui n'était pas un mince exploit déjà.
Ouais.
déjà.
Pour enchaîner sur Clermont, Wilfried, t'en as touché deux mots tout à l'heure, mais c'est vrai que la dynamique est quand même très bonne pour les hommes de Christophe Furios. Et parmi les trois dernières victoires, il y en a une quand même de prestige à Toulouse. Tout à l'heure, tu disais que Toulouse n'était pas les meilleurs à domicile sur le nombre de victoires. Il y a une équipe qui les a fait douter. C'est Clermont, c'est vraiment l'équipe par excellence qui peut les faire douter, qui peut faire douter ces grosses équipes et qui a besoin en plus d'aller chercher une nouvelle victoire à l'extérieur. C'est quasi victoire obligatoire s'ils veulent valider leur ticket pour les phases finales.
Eh ben, en fait, ils sont à l'abri de rien, Clermont, malgré tout. Parce que...
C'est très compliqué.
Ils vont à Pau, ils reçoivent le Racing et ils vont à l'UBB.
C'est peut-être les outsiders qui ont le plus à perdre sur ces derniers matchs.
Bah oui, parce que... Bon, on ne leur souhaite pas, mais ça peut très mal s'en mancher pour eux sur les derniers matchs. Et d'autres, comme on en reparlera plus tard, mais comme Bordeaux ou La Rochelle, peuvent leur passer devant s'ils faisaient carton plein. Bon, il y a une marge. Quand on a dit tout ça, il y a une marge. Hein, donc,
oui.
Au jeu des points de bonus aussi. Donc, voilà. Mais dans le... Dans
pour le, resituer, comment... Clermont est cinquième avec 66 points.
Ouais.
Et le Racing est septième, 4 points derrière, et La Rochelle a 58 points en étant huitième.
La Rochelle ça laisse un petit peu de marge. De Clermont, ça laisse
même pas au classement britannique.
Mais... Ah,
eh, mais j'y reviens. Non, mais j'y reviens parce que La Rochelle va aller gagner à Montauban, donc clairement en fait ils ont plus le droit d'avoir d'accident.
Ils sont pas mal
à la fin de la saison
en Britannique, La Rochelle, je pense.
Oui, ils sont à 14 aux Britanniques, les Rochelais. Et Clermont, 18. Donc, un accident de La Rochelle à domicile et une victoire de La Rochelle extérieure. La Rochelle passe devant Clermont. C'est...
Un accident de Clermont et une victoire de La Rochelle domicile.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est pour ça que alors, je vous fatigue avec mon Britannique, mais ils sont pas loin, les
Rochelais. Britannique qui prend en compte les victoires à l'extérieur.
Exactement, ils sont pas loin. Donc, attention. Alors, Clermont, en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir d'accident.
Je ne vais pas vous saouler avec ça, parce que on va pas faire du pro Stade Rochelais ici, mais juste le détail. C'est que vous savez très bien que l'égalité entre les clubs est très importante, parce que ça se joue à un point ou à rien, ou des fois à des égalités. Et La Rochelle a l'avantage sur l'UBB, sur Clermont et sur le Racing, à chaque fois.
En cas d'égalité à deux.
Ouais, ouais. Et ils seront pas mal à 3 puisqu'ils ont battu. Bah, non mais déjà s'ils ont l'avantage.
Là,
non mais souvent on dit ils ont l'avantage sur cette égalité là. Ah et avec les autres. Bah, si je vous dis qu'ils ont l'avantage sur ces 3 clubs,
ouais,
c'est qu'en cas d'égalité à 3 ils seront pas mal aussi. Donc c'est un détail mais ça peut compter. Ça peut compter à la fin. On en reparlera dimanche soir à 23h.
Tout à fait.
Et on en reparlera à la fin, enfin,
de
au dernier match de ce podcast. Mais on n'a pas pu s'empêcher de vous le dire.
Bien sûr. Wilfried, tant que tu as la main, est-ce que tu peux nous donner les compos de ce
oui.
match?
Oui. Alors, justement, vous parlez de cette équipe paloise où on a 4 changements par rapport au week-end dernier. On a une première ligne, Kolasvili, Montoya, ça ne change pas, et Papidze, plutôt que Laclaya. Donc Laclaya est mis sur le banc. Deuxième ligne, Thomas Jolmes, qui sera titulaire, plutôt que Oradou, qui revient en plus de suspension, mais on le laisse sur le banc. C'est pour vous dire qu'on prévoit des choses côté palois sur l'ensemble de ce match. Il est titulaire avec Capelli aussi, à qui on redonne sa chance dans le 15 de départ. Whitelock, qui a annoncé sa future retraite, sera le capitaine en troisième ligne avec Credoz et Facundo Issa. La charnière, on remet Dobania titulaire avec Josimans. Et derrière, c'est plutôt du classique avec Grand Didier à une aile, Atisogbe à l'autre, les centres, Broboiri Gaëtan et Maddox à l'arrière, les remplaçants. Donc Lucaré, Maximin en deuxième ligne. C'est rigolo, hein.
Ouais.
À chaque fois avec Bibi, Biziwu. Maximin et Oradou donc, sur le banc avec Zeger. Il y a un énorme banc à côté palois.
Ah,
pas
oui.
Julien qui va me dire le contraire. Robson, Desperes. Et la Claya, donc en autre pilier. C'est surprenant, Julien, ce banc palois. Ça veut dire qu'on. Voilà, c'est un match à part, c'est un gros match. On s'attend à un énorme combat face
non,
à Clermont.
Ils savent que, que ça va être la guerre devant. Donc je pense que Sébastien Piqueroni, dans son coaching, il sait qu'il va falloir résister et peut-être en deuxième période faire basculer cette rencontre. Parce que Clermont est évidemment très fort devant. Je pense que les trois plus gros paquets d'avance, ça doit être Montpellier, le Stade français et Clermont cette saison. Sans oublier Toulouse, évidemment. Mais en termes de densité physique et de ce que vont proposer surtout les Clermontois. Clermont est l'équipe qui marque le plus d'essais sur groupé pénétrant après touche. Donc quand tu sais ça, tu sais que devant va falloir résister et qu'il va falloir faire la guerre. Surtout
mais justement, est-ce que c'est surprenant de mettre Oradou sur le banc dans ce cas?
Oui, la Claya et Maxima. Mais, bah, ça va, mais parce que les matchs, c'est, ça, le coaching est dure. Hyper important en fait. Ouais. Ouais. Et qu'à la 60e, ça peut basculer, quoi. Donc c'est pour
voire
ça
même
que
à la 50e, voire non, mais
ouais,
ils
qu'on met des forces comme ça.
Ils peuvent coacher très tôt. Ils peuvent faire deux paquets d'avant, une mi-temps chacun ouais. En fait.
Par donc, contre, je vais vous dire vas-y. La compo clermontoise et ça, ah, ça vient de me faire tilter parce que j'ai les images des joueurs. Première ligne à Pau, donc à gauche, Kolachvili, à droite, Lexo Kolachvili, à droite, Guram Papidze, à gauche, à Clermont, Georgi Akaladze, à droite, Georgi Zamanashvili. Donc c'est un duel de Géorgiens en fait. En pilier, ça va être la guerre de Géorgie là. donc voilà. Première ligne, Akaladze, Massa et Zmanashvili, qui est le seul changement. Zmanashvili plutôt que Tutizani, c'est ça. Qui est le seul changement clermontois dans le 15 de départ par rapport à la semaine dernière. Urios mis sur la stabilité. Deuxième ligne, Michaud avec Thomas Seyt. Troisième ligne, elle. Grosse troisième ligne de combat aussi. Tixeron Emery qui entoure Sowakula. Jono. Plummer, la charnière classique. Au centre, Dari Carrère, Loa Loa. Raka à l'aile gauche, Delgui à l'aile droite et Kylian Hamdaoui à l'arrière. Les remplaçants Fourcade, Lotriant, Rob Simons, Celebasio Tolofua, Pio Mouaroua, Lucas Zamora, Simone avec Tutizani. Donc un banc en 6-2. Des deux côtés. Hein, des deux côtés, un banc
ça
en 6-2.
Valide ce qu'on disait depuis tout à l'heure.
Oui. Oui, ça va faire des étincelles ce match.
Effectivement, match donc à suivre samedi à 14h30 en ouverture de cette 24e journée. Juste derrière, on aura donc le multiplex à 16h35. Et Julien, va retrouver dedans Castres-Montpellier. Je vois Castres, alors je pense à Wilfried, mais c'est plutôt Montpellier qui nous intéresse sur cette rencontre parce que c'est les Montpelliérains qui ont encore beaucoup à jouer. Tandis que Castres, c'est un peu terminé pour la saison. Montpellier doit l'emporter à Castres, Julien, pour espérer figurer dans les 6. Et d'ailleurs, comme pour Pau, s'ils gagnent ce week-end, ils seront dans les 6 à coup sûr à la fin de la saison.
Exactement. Joanne
Codulo, on ne balance pas la compo, Julien, mais ça ne fait pas tourner Montpellier à une semaine de la finale de
Champions. Non, ça fait, on en parlera après, mais voilà, Joanne Codulo pourra signer sa petite feuille du top 6. Je suis dans le top 6 officiellement. Et oui, l'objectif
prime,
sera validé. Non, mais les Montpellierains, ils auront validé leur objectif déjà de jouer la finale de la Coupe d'Europe et d'être qualifiés dans le top 6. À 3 semaines de la fin de la saison, ils vont pouvoir basculer sur autre chose. Mais oui, les Montpelliérains, ils veulent aller valider ce top 6 pour après regarder aussi plus haut, peut-être le top 2, peut-être un barrage à domicile. Mais surtout, Montpellier aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux depuis début du mois de décembre. C'est 18 victoires sur les 21 dernières rencontres. Alors, Coupe d'Europe comprise, hein, donc il y a beaucoup de victoires évidemment européennes. Mais c'est aussi deux bonus défensifs du côté de Toulon et du côté de Pau. Wilfried en parlait tout à l'heure, à Pau, ils ne sont pas loin de pouvoir s'imposer. À Toulon, ils sont pas loin de pouvoir s'imposer. Et après, il y a cette défaite à Toulouse avec l'équipe B, voire B prime. Joanne Codulo cesse de le répéter, s'ils y avaient un peu plus cru, ils auraient pu au moins ramener un bonus défensif. Donc cette équipe-là, elle ne lâche rien. Elle est portée par une confiance incroyable, une dynamique très forte, avec des points forts de plus en plus identifiés. C'est-à-dire aujourd'hui un paquet d'avant qui détruit tout le monde. C'est clairement ça. C'est dense, ça fait mal. Alors là, il y aura l'absence de Vunipola demain, qui a pris 3 cartons jaunes. Donc il sera absent. Mais
un poète
remplacé
en moins.
Par les Ninou... Oui, remplacé par les Ninouchi en 8, Béconnier et Camara. Ça laisse quand même une troisième ligne qui est impressionnante. Voilà. Défensivement, c'est la meilleure défense du top 14 qui ne lâche absolument rien, qui fait la guerre partout avec Geoffrey Doumerou qui a mis ça en place. Et offensivement, cette équipe commence à tourner, c'est la 4e attaque du top 14. Donc voilà, aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. L'infirmerie, elle est quasiment vide. Ils ont juste perdu Lennox à Niaou jusqu'à la fin de la saison, l'international anglais. Mais il a été remplacé par Rusto Picardo la semaine dernière qui a mis un quadruplé. Certes contre Montauban, mais des joueurs qui mettent des quadruplés dans notre championnat, ça reste quand même très rare. Donc oui, cette équipe aujourd'hui, elle est portée par une confiance. Il y a ce match, tu l'as dit, la semaine prochaine de finale de Coupe d'Europe, vendredi prochain, mais pas question de
face
faire
à l'Ulster.
Tourner face à l'Ulster, pas question de faire tourner avant ou après, parce que après le match de l'Ulster, ça sera Pau. Donc là, de toute façon, Joanne Codulo, il a dit aujourd'hui, on va plus faire tourner, on va mettre les meilleurs à chaque fois pour garder cette dynamique, garder cette confiance, enchaîner. Et puis il a dit, j'ai dit aux joueurs, il y a un mois et demi, s'il vous plaît, on va moins voir nos familles, Mais si on passe un mois et demi tous ensemble, ça veut dire qu'on aura été chercher quelque chose de très beau à la fin. Donc voilà, il a demandé aux joueurs en gros de s'investir à fond encore pendant le mois et demi à venir. En
se disant, voilà, bon,
il
y avait le projet collectif.
Mais c'est ça, c'est aujourd'hui.
Mais c'est pareil, à RMC sur la fin de saison, dites-le à vos familles.
Non, mais c'est ça, il est en train de créer un vrai collectif aujourd'hui. Ça ressemble tellement de plus en plus à 2022, ce qu'ils sont en train de faire, avec finalement des joueurs qui sont interchangeables. Ça ressemble tellement à l'équipe de 2022, je la trouve peut-être même un peu plus forte que 2022. Alors après, on va voir jusqu'où cette équipe va pouvoir aller, mais voilà, ça ressemble à ce qu'ils ont réussi à faire en 2022. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout du top 14, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont aujourd'hui un prétendant très sérieux au Brennus.
Oui, parce que Joanne Codulo en a parlé d'ailleurs en conférence de presse. Julien, l'objectif, c'est de relancer l'histoire de ce club et de la belle histoire vécue en 2022.
Ouais, même si le club est jeune, il se passait des choses avant ça. Il y a des choses très positives. Il y a eu des titres de challenge européen. Il y a eu un titre en 2022, top 14, qui a été hyper intéressant. Mais il n'y a pas eu de continuité. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à avoir. Déjà, essayer de gagner des titres, faire des phases finales. Ça fait maintenant 4 saisons qu'on n'a pas fait de phase finale top 14. Donc, il faut arriver à stabiliser le club et voir le moyen long terme pour que justement, on puisse avoir des ambitions chaque saison, que ce soit en top 14, mais aussi en Champions Cup, qui, je l'espère, sera un objectif la saison prochaine.
Bien, est-ce que ça se ressent, alors Montpellier c'est un peu difficile, au niveau du public, parce que c'est parfois quand ça marchait moins bien, il y avait moins de monde et tout, est-ce que tu sens quelque chose qui prend un peu plus ou c'est pas encore
Non, ça commence aussi à prendre, ça commence aussi à prendre, le match de la section est déjà à guichet fermé à la fin du mois de mai, alors en plus avec l'enjeu de la rencontre, le dernier match de la saison, c'est toujours la fête à Montpellier sur les derniers matchs de la saison, mais même ils avaient réussi à faire 10 000 sur le match de Coupe d'Europe contre Newport. Il y a un engouement, mais parce que aussi les Montpellierains, comme en 2022 ou comme au début des années 2010, ils se reconnaissent dans cette équipe-là, déjà coachée par des Montpellierains ou des joueurs qui ont été formés du côté de Montpellier. On pense évidemment à Doumerou, à Codulo, à Payog, Batut, qui n'est pas un Montpellierain, mais qui a passé une grande partie de sa carrière ici. Des joueurs issus du CRU, on pense évidemment à Arthur Vincent, à Lenny Nouchi. Donc les joueurs, les supporters aujourd'hui arrivent à s'identifier. Il y a une communication positive. Joanne Codulo, il fait un boulot énorme. Il fait beaucoup de délocalisation dans les clubs aux alentours. Voilà, il y a un vrai travail aussi pour redevenir sympathique aux yeux du public montpelliérain. Et c'est en train de prendre, évidemment. Mais bon, pour que ça prenne, il faut des victoires, il faut des titres. Des victoires en championnat, ça permet aux gens, quand ils ont passé un mois, de revenir. Et des titres, ça permet de t'accrocher à cette équipe-là et de vouloir les suivre sur plusieurs années. Mais oui, tu sens que depuis que Codulo est là, ils sont en train de créer quelque chose pour créer un projet et être peut-être comme a pu le faire La Rochelle il y a 10 ans, comme est en train de le faire la section, de créer quelque chose sur le long terme et de redevenir en tout cas un prétendant sérieux chaque saison.
D'ailleurs, si vous voulez,
issu du CRU et du coin, hein.
Ouais, pour exactement. Les Piterrois effectivement.
Il n'y a pas que la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe, finalement.
Non, bien sûr. Non. Il y a la vallée de l'Orbe, celle-là. C'est
la
vallée de
l'Orbe.
Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur l'histoire de Montpellier, sur cette saison qu'ils sont en train de réaliser, qui est très belle, on a consacré un épisode qui est sorti lundi dernier au MHR et qui est très intéressant. Donc vous pouvez foncer l'écouter si ce n'est déjà fait. Julien, moi, il y a une chose qui m'a interpellée sur cette conférence de presse, c'est que Joanne Codulo vous a dit que c'était dans l'histoire du club un derby de jouer à Castres.
Oui, parce que c'est un. Alors il faut.
Il y a quelques années en arrière,
l'histoire.
C'est ça.
Ouais,
c'est pour
c'est-à-dire qu'au moment où moment où Fabien Galthié,
Maman
où Fabien Galthié a repris le groupe, donc Joanne Codulo était joueur à l'époque. Donc c'est le tout début de l'histoire des barrages du top 14. Donc 2011, c'est le premier barrage de l'histoire du top 14. Montpellier va à Castres. Montpellier s'impose à Castres jusqu'à la finale.
Oui,
2012,
Romain Tollet a la pénalité de la gagne. Exactement. Il a mis 4000 points et il
c'est
loupe
ça.
Et
il
passe au poteau. Ouais.
2012, barrage de top 14, de nouveau Castres-Montpellier. 2013, barrage de top 14, Montpellier-Castres. Donc les trois premiers barrages, il y a eu des Montpellier-Castres ou des Castres-Montpellier. Il y a la finale de top 14 en 2018, perdue par les Montpelliérains. Donc en fait, c'est des équipes, même si évidemment...
Et la finale 2022
Et aussi, donc c'est pas un derby géographique.
Perdu par Castres.
Voilà. Mais dans l'histoire de cette jeune équipe montpelliéraine, ils ont souvent affronté Castres dans les matchs qui comptent. Et en plus, les clubs s'entendent bien. Ouais, il y a beaucoup de joueurs montpelliérains qui sont partis à Castres. On pense notamment à Thomas Combezou, à Robert Eberson. Beaucoup de montpelliérains qui ont fini à Castres. Et donc voilà, c'est une équipe que Montpellier a souvent retrouvée sur les phases finales. Et donc, ça reste toujours un match très particulier entre ces deux formations.
Et pour la petite histoire, Roxane, je te parlais de Romain Tollet qui avait loupé ce coup de pied qui a envoyé Castres en demi-finale. Bah, dans la semaine précédente, j'avais fait un reportage avec Romain Tollet sur la manière dont il butait, comment il se préparait. il m'avait raconté tout ça, tous ses repères. Et...
Très bien.
Et il loupe la pénalité. Non, j'avais appelé quand même le lendemain du match en lui disant j'espère que ça ne t'a pas perturbé.
Bah non, mais c'est après, de ta je faute dis, finalement, Wilfried Bravo.
Non, mais bon, les joueurs jouent le jeu médiatique et ils nous avaient expliqué tous ces pas, machin. Je m'étais dit peut-être que. Voilà, ça... Il m'avait dit non, t'inquiète, c'était pas ça.
Wilfried, tu suis Castres de près tout au long de la saison. Cette année, la saison pour les Castrés a été quand même beaucoup plus compliquée que d'habitude. On sait qu'ils ont souvent pas loin pour jouer les barrages, voire ils les jouent quand même assez régulièrement. Est-ce que c'est l'équipe parfaite pour jouer les troubles faites malgré cette saison compliquée ou pas?
Alors, si je joue, je fais un pari et je mets énormément d'argent sur Castres si je le sais. Donc, je ne le sais pas et je ne pense pas. Maintenant, tout peut arriver, mais je ne pense pas, avec tout ce que vient d'expliquer Julien sur la force montpelliéraine. Alors, soit les Castrés, c'est baroud d'honneur quand même à domicile, parce qu'ils sont à 4 défaites à domicile cette saison. Hein, et à chaque fois, contre des membres du top 6 ou quasi top 6. Pau, UBB, La Rochelle, Toulouse. Ça fait beaucoup quand même. Hein, 4 défaites à domicile pour une équipe qui, normalement, est très forte chez elle. Tout le monde dit depuis des années, c'est pas facile d'aller jouer à Pierre Favre. Et surtout, ils ont une dynamique terrible, c'est qu'ils ont une seule victoire sur les 8 derniers matchs, les Castrés, et la victoire était contre Montauban. Ils prennent presque 60 points à Bordeaux, ils perdent contre La Rochelle à domicile, ils en prennent 50 au Racing, 50 à Northampton, ils prennent 40 points à domicile contre Toulouse, ils perdent à Lyon qui joue plus grand chose, à Pau la semaine dernière, c'est pas mal parfois bon Castres. C'est pas mal. Sauf que, ils sont plombés par leurs erreurs et leur indiscipline. Ça leur colle aux chaussures depuis des mois, en fait. C'est l'équipe la plus indisciplinée du top 14. Vous imaginez, ils ont pris 25 cartons jaunes. Personne n'a fait pire, en fait. Montauban n'a pris celle qui prend le moins. Que 24.
Montpellier est deuxième équipe la plus disciplinée derrière Toulouse.
Non, derrière Toulouse.
Moins de cartons.
Non, c'est Toulouse avec 10 cartons, je crois.
Ah oui, 10 cartons Toulouse.
Voilà. Et Montpellier à 12, je crois. Ouais. Enfin bon. Non, mais Castres, c'est incroyable. Ça prend quasiment 12 pénalités par match. Donc, ils sont plombés par ça. Castres a quand même un manque de puissance devant et en plus en difficulté contre les équipes comme ça. Donc sur le papier, ça paraît difficile. Ça ne veut pas dire que Castres ne peut pas aller chercher des ressources qu'ils ont déjà eues pour la fierté aussi. Parce que, est-ce qu'il n'y a plus grand-chose à jouer? Est-ce que La Rochelle est à 10 points? Donc ça semble compliqué pour aller chercher la place en Champions Cup. Donc ça sent plus très bon pour la saison.
4 points au classement britannique, les Castrés. C'est impossible. Ouais. Là, c'est impossible. Possibles. Ils sont 10e au classement britannique. La 8e place, elle a 10 points. Donc ça paraît impossible pour les Castrés.
Ils vont à Perpignan, ils reçoivent Toulon ensuite. Mais voilà, les signaux ne sont pas du tout au vert pour les Castrés, qu'on voit toujours en début de saison capable d'intégrer les 6. Mais là, il a manqué des choses. Parce qu'ils sont capables, tu disais, ils vont faire un bon match à Pau, ils sont capables de produire du jeu, ils sont capables d'être spectaculaires, mais ils sont capables derrière de faire des bêtises incroyables. Je pense que Xavier Sadourny ne s'est pas arraché les cheveux parce qu'il n'en a plus beaucoup.
Je m'interroge toujours, sur une équipe qui a quasiment plus rien à jouer. Tu l'as dit, à part la fierté, toujours bien finir devant son public. Je me dis toujours que ce n'est pas assez suffisant. Dans ce top 14 aujourd'hui, contre une équipe surmotivée Montpellier, ou comme je dis Montpellier, où c'est une vraie question aujourd'hui, ces équipes qui n'ont plus rien à jouer, comment elles vont pouvoir rivaliser. On en fera un podcast lundi sur la dureté du top 14. Mais aujourd'hui, c'est la guerre tout le temps, quoi. Ouais. Et si tu mets, et Joanne Codulo, arrête pas de le répéter, quand on est à 80% ou 90%, on n'est plus invité. Et ces équipes-là qui n'ont plus rien à jouer, c'est difficile de te mettre à 100% sur des matchs-là, d'y mettre un investissement complet. Donc on va voir, peut-être qu'ils vont réussir.
Ah
oui, oui. Ouais, peut-être qu'ils vont réussir, tu l'as dit, ils sont capables de faire des exploits.
Déjà,
bah, malgré tout, ils ont pas la carotte au bout. Hein. Bah, contre une équipe qui a la carotte d'un top 2, je pense que c'est pas suffisant. La fierté de bien finir, la fierté de dire adieu à des coéquipiers qui partent dans un autre club la saison suivante.
Bah surtout contre des pas marrants comme ça en face. Quoi.
Ouais, en plus.
Sur la densité, sur la pression qu'ils vont mettre au sol, en défense, ils étouffent. Donc, sur un coup de folie, pourquoi pas, mais ils ne partent pas favoris.
Alors, justement, Julien, on parle d'équipe qui va étouffer Castres. À quoi va ressembler cette équipe ? Est-ce que tu as la compo ?
Oui. Erdosio, Oulézé, Awas pour la première ligne. Verag, Duguide pour la deuxième ligne. Nouchi en 8. Camara, Béconnier sur les ailes. Price, Miotti à la charnière. Ngandebe, Taofifenua sur les ailes. Picardo, Kado au centre. Tom Banks à l'arrière. Et sur le banc, Tolofua, talonneur. Forletta et Valentin Welch pour les piliers remplaçants. Adam Bird, Mahamadou Diaby, Bernadet, Vincent Thomas et Vincent Arthur, les deux Vincent seront sur le banc de touche. Côté Montpellierin, un banc en 5-3, mais voilà, c'est la meilleure équipe possible des Montpellierins alignée du côté de Castres ce week-end. Où Castres, ça sera Walker, Colonna, Collier pour la première ligne, Ducastani Force en deuxième ligne, Delaporte capitaine, Van Verberg qui jouera numéro 8 avec Ardron en troisième ligne, Fernandez Poplin à la charnière, Bagé Ambadieng sur les ailes, Goudu Kokadji au centre, Chabouni à l'arrière et là le banc de touche Durand, Guerrois, Marava, Papali, Kop, Doubrère, Palis, Chilachava, on parlait des joueurs qui étaient passés par Montpellier, Levan Chilachava et pilier montpelliérain qui va terminer sa carrière du côté de Castres.
Très bien, affiche à suivre donc dans le multiplex à 16h35 ce samedi. Messieurs, on va s'intéresser maintenant à l'affiche du dimanche soir pour clôturer ce podcast. Toulouse-La Rochelle, là aussi affiche de finale il y a quelques années. On parlait de Castres-Montpellier. Match à enjeu, surtout pour... Mais ça va pas. Match en jeu surtout pour les Rochelais, Wilfried, qui vise encore une qualif parmi les six.
Excusez-moi, j'ai eu un flash.
Mais on va te virer du podcast, tout simplement. mais c'est pas une affiche en jeu juste pour La Rochelle. Toulouse est en quête de son côté de régularité.
Oui, Toulouse a quelques ajustements à faire. Alors, on précise qu'il faut 2 points au stade toulousain sur les 3 derniers matchs pour être sûr d'être dans les 2 premiers et d'aller directement à Marseille. Et il manque 1 victoire pour être sûr de terminer premier du championnat et de souvent se choisir son match le vendredi soir, la première demi-finale, et de gagner 24 heures sur la finale, s'il y a finale derrière. Et donc, Toulouse a 12 points d'avance sur Montpellier, 13 sur Pau. Mais est en quête de régularité par rapport à ce qu'ils ont vécu cette saison. C'est pas grand chose, mais à l'échelle toulousaine, les 2 défaites en poule qui ont précipité leur déplacement en quart de finale à l'UBB et leur élimination, la défaite au Stadium face à Clermont, voilà, il y a quelques doutes à effacer. Ils en ont effacé une partie au stade Vélodrome face à un Toulon tout de même mal en point, il faut le dire. Donc Toulouse a envie de frapper fort. Il reste 3 matchs. C'est un match pour eux, prime time dimanche soir, dans un stade en ébullition, face à une équipe qui cherche, qui rêve d'intégrer les 6. C'est un match parfait pour eux pour préparer le mois de juin. Donc, c'est pas du tout, ils se disent
attention,
pas du tout, tiens, il nous reste 3 matchs. Quoi ?
Je dis du coup danger pour La Rochelle, attention.
Oui, danger, parce que Toulouse se dit pas du tout, on recevra Lyon au moment, qu'on n'aura plus rien à jouer, on leur passe 5 points à domicile, on est content, et en demi-finale, c'est pas du tout ce qu'ils se disent. Ils ont changé les plannings d'entraînement, ils ont changé le contenu d'entraînement, ils avaient des semaines où ils jouaient pas le week-end, où ils ont fait du très dur pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, et après ils ont coupé, ils ont laissé les joueurs couper, ils ont essayé de secouer un peu tout ça, de sortir de la monotonie un peu, et oui, ils vont se tester à La Rochelle.
Effectivement, c'est un avant-goût des phases finales, comme te l'a confié Mathis Lebel.
Ouais, c'est quand même plaisant de jouer, comme on dit, d'avoir, c'est plaisant d'aller jouer dans des enceintes comme ça. C'est quand même une belle équipe du top 14 depuis maintenant plusieurs saisons. Donc ça, c'est toujours forcément excitant. Et après, avoir ce luxe d'aller se confronter peut-être avant des potentielles phases finales, d'aller se confronter à une équipe qui, elle, est en mode phase finale parce qu'elle doit jouer sa place dans le top 6. Donc on aura déjà un avant-goût de ce qui pourra nous arriver peut-être plus tard. Donc ça, c'est quand même vachement excitant. Et après, encore une fois, se rattacher à ce qu'on a envie de faire, se rattacher peut-être au maillot, voir ce qu'on veut faire collectivement et arriver et continuer à travailler pour la fin de saison.
Ça leur a pas plu, Wilfried, de perdre contre Clermont au Stadium, les Toulousains?
Non. Non, il a dit, ça suffit pas de mettre un joli maillot au stadium, il a dit Mathis Lebel. Ça suffit pas de mettre un joli maillot au stadium pour gagner les matchs. Voilà, il en faut plus et ils seront piqués. Mais puis de toute façon, ils sont triple champions de France, ils briguent un quatrième bouclier. Faut bien alimenter la bête, quoi. Hein, voilà, pour qui tu parlais de motivation, Julien, là, c'est dur hein, de rester tout en haut. Et ils le disent souvent et plus tard, on se le dira aussi. C'est ce qu'ils font, c'est incroyable en fait. Depuis 6-7 ans, quoi. C'est ouais. Pour rester tout en haut tout le temps. Et la
Après, ils ont l'art d'alimenter la bête aussi, je trouve parfois quand même. Je me rappelle la saison dernière. Non, mais je me rappelle la saison dernière où ils avaient été perdre à Aimé Giral, la dernière journée du top 14, où on s'inquiétait pour Toulouse. Et ils avaient perdu la demi-finale contre Bordeaux en top 14. Ils n'avaient pas existé à Aimé Giral, où ils avaient pris
en Coupe d'Europe.
En Coupe d'Europe, ouais. Ils n'avaient pas existé à Aimé Giral et tout le monde disait ouais, ça y est, Toulouse est fini. Et quand j'entends Wilfried, j'ai l'impression qu'il nous avait déjà dit ça l'année dernière. Ouais, ils ont changé les entraînements. Ils ont travaillé dur en début de semaine. Non, mais j'ai l'impression que c'est ils arrivent quand même eux-mêmes du coup à se remettre eux-mêmes à se générer en fait de la motivation. C'est ça que je veux dire dans le sens là où ils sont capables eux-mêmes d'alimenter leur bête quoi. L'année dernière, ils avaient fait une phase finale après très solide. Donc voilà, j'ai l'impression que clairement c'est un accident dans leur saison et qui peut leur servir quoi. Ça. Plus, je pense que, on en parlait la semaine dernière, tout ce que les médias peuvent dire sur Dupont, sur Ntamack, je pense qu'en plus, ils s'alimentent pour trouver des leviers de motivation en disant voilà, on veut nous enterrer, on sera toujours là. Quoi.
Non, mais ils vont peut-être voir l'UBB soulever la Coupe d'Europe en plus. Hein, donc,
en plus. Oui.
Donc ça, c'est, ils l'ont déjà dit, ça, ces phrases. On n'aime pas voir quand c'est pas nous qui soulevons les trophées. Quoi. C'est ce que je disais il y a quelques temps. Je disais, j'ai l'impression que les trophées sont à eux de base. Et hop, il y en a un qui nous l'a piqué là.
On nous l'a volé. C'est à moi.
Ça, c'est à nous. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'antenne. Sur les depuis le début de leur cycle gagnant, depuis 2019, il y a eu 12 titres, 12, 6 top 14, 6 Coupes d'Europe. Ils en ont gagné 7 sur les 12. Donc, de temps en temps, il y a une petite place, mais ils n'aiment pas laisser trop la place. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'ils seront champions de France, mais là, ils seront, enfin, vous le savez, évidemment qu'ils seront là. Quoi. C'est, voilà. Écoute le riffané l'autre.
C'est un match.
parce que des fois quand je
parce que déjà il y a la moitié de nos auditeurs de La Rochelle qui ont fait pause et qui sont partis aux toilettes là.
parce que parfois quand je nous entends parler, j'ai l'impression que Toulouse ils ont encore fait une mauvaise saison. Ils ont 82 points. Ils ont battu le nombre de points inscrits sur une saison déjà. Il faut encore une saison extraordinaire. Sauf que
ils ont perdu en quart. De Champions Cup. Non, mais on n'est pas habitué à
mais
ça.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, leur saison en top 14, il y a 6 défaites dans le championnat. Il y a donc celle de Clermont. En fait, celle de Clermont, elle fait tâche parce qu'elle arrive 15 jours après la défaite en Coupe d'Europe. Donc, on a Toulouse qui perd 2 fois en 15 jours. Ça nous paraît surprenant. Mais la saison toulousaine, elle est encore dantesque. 82 points, ils ont. Ils vont peut-être finir pas loin de 95 points encore, quoi.
Et puis on se posait la question la semaine dernière, Julien, de est-ce que Toulouse allait faire tourner sur ses prochains matchs. Wilfried, on a la réponse. Si on est en quête de régularité, c'est qu'a priori on fait pas trop tourner.
Ah ouais, non, c'est pas prévu.
Les supporters rochelais vont admirer Antoine Dupont sur leur pelouse.
Oui, il est annoncé titulaire. Il y a juste un doute, savoir si c'est peut-être Ramos plutôt qu'Ntamack à l'ouverture, mais il y aura du Marchand qui revient, du Meafou, on n'a pas les comptes officiels parce que le match est dimanche au moment où on enregistre le podcast, mais voilà, du Willy. Du Cross, du Barassi, du Gourgue, voilà. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, quoi, parce que je vous disais que le pot Clermont faisait saliver, le La Rochelle-Toulouse aussi, dimanche soir. Hein. Parce que les Rochelais ou pas, alors
oui,
peut-être.
Parce que les parce que les Rochelais reviennent aussi.
Non, parce que la semaine dernière, dans le podcast, c'était les Paolo Orsi, les Landry disaient qu'ils allaient perdre au Racing, ça allait être fini.
Non, on n'a pas dit ça.
Bon, que c'était trop dur, qu'ils ne les voyaient pas. C'était, donc voilà, tout peut arriver.
Tout peut arriver.
J'ai dit que. Non, alors je m'inscris en faux. On a dit que les Rochelais avaient toutes les armes pour gagner au Racing.
Je taquine.
Ils avaient les
taquine.
Joueurs pour.
Non, mais moi, je ne les voyais pas gagner au Racing, Julien. avec la puissance ouais, du
on avait dit en fait, il me semble que
peu
les
supporters
Rochelais,
les voyaient gagner je pense de toute
que les Rochelais avaient les armes avec les joueurs pour sur la
tout
pelouse avec le garage tout ça on avait dit que c'était possible mais évidemment le Racing a vaincu à domicile partait favori mais ouais. les Rochelais ouais. sont mieux
j'étais extrêmement déçu par le on va parler de la Rochelle mais par le Racing hein, d'un point de vue rugby franchement le Racing est extrêmement puissant. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont mis Twisova et Abossi sur le banc, parce que quand ils rentrent, ils démontent tout. Et voilà, s'ils avaient été sur le terrain au début, ça aurait peut-être été plus dur pour La Rochelle. Mais voilà, dans un terme d'animation rugby, j'ai trouvé le Racing extrêmement pauvre. Voilà. Mais
alors, ça veut
dire que La Rochelle va mieux.
Long,
non, mais La Rochelle va mieux. La Rochelle va mieux depuis un mois. Il y a cette victoire contre Bordeaux. Cette victoire, même si elle est étriquée à Perpignan, elle symbolise en tout cas l'état d'esprit de cette équipe-là qui, dans un endroit compliqué, avec j'avais calculé 9 changements de score. Voilà, elle disait aussi beaucoup du mental de cette équipe-là. La victoire au Racing derrière. Moi, je trouve qu'Aldrit, il revient très fort. Le Garet, qui prend une dimension depuis un mois, doublé contre Bordeaux, doublé à Perpignan, essai au Racing. Il en a 5 essais sur les 3 derniers matchs, le Garet.
69 points sur les 3 derniers matchs.
Ouais, c'est ça. Donc, le Garet prend aujourd'hui le leadership de cette équipe-là. Tu sens vraiment, tu vois la transformation là. Ils sont moins denses devant. Non,
mais tu vois la transformation du jeu.
Il est dépositaire du jeu de La Rochelle.
Mais j'ai regardé ça justement. Il y a des stats qui prouvent ça. Et je pense que O'Gara a compris qu'avec l'âge des. Bah, ce qui arrive à Tonio, l'âge de Skelton, voilà. Qu'il fallait aussi changer des choses. Il y a des stats qui prouvent que La Rochelle est en train de muter au niveau du jeu. Ils sont dans le trio de tête avec Toulouse et l'UBB sur le nombre de offloads. Donc c'est Toulouse, UBB, La Rochelle, le nombre de franchissements UBB, Stade Toulousain, La Rochelle, le nombre de plaquages cassés Stade Toulousain, UBB, La Rochelle et de mètres parcourus, Stade Toulousain, UBB, La Rochelle. Ça, tout ça, offload, mètres parcourus, vous avez bien compris que ça veut dire une certaine production de jeu et d'être avec ces équipes-là, c'est que vous connaissez le jeu de Toulouse et de l'UBB, ça veut dire que La Rochelle est en train de changer son jeu. Et je pense qu'avec le recrutement, notamment, on aura le temps d'en parler l'année prochaine, d'avant, bien plus dynamique, les Morat qui viennent d'Afrique du Sud, les McFarland des Saracens, même Adélaïde qui arrive de Colomiers et d'autres comme ça, quand vous allez remplacer les Dylan, les Douglas, je pense que La Rochelle, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se former côté Rochelais. Maintenant, l'enjeu aussi, c'est est-ce que La Rochelle est capable de revenir du fond du parking là pour aller chercher une sixième place.
Mais justement, ce match face à Toulouse va peut-être aussi situer cette équipe de La Rochelle, savoir est-ce qu'on est capable d'aller chercher une place en phase finale quand on vient de réaliser une saison comme ça. C'est vrai
l'année dernière,
le match contre Toulouse, il n'y a rien
de victoire de suite avant de tomber à Pau. Et ça prouve que Pau était déjà avait enclenché quelque chose, et ça voulait dire aussi quelque chose de la valeur de Pau. Mais ils étaient à 5, ils perdent à la dernière journée, mais avant, ils peuvent rentrer dans les 6, ils sont à 5 victoires de suite.
Après, La Rochelle est assez habituée, l'année dernière, pareil, à essayer de refaire une remontada sur la fin de saison. C'est souvent une équipe qui se réveille sur
Moi,
les fins de saison et qui ne fonctionne,
ça
fonctionne
ça
pas toujours,
physiquement.
Exactement. Notamment c'est ce que j'allais dire, Julien, c'est que c'est quand même dangereux de miser là-dessus.
La Rochelle a démarré ses phases finales le 18 avril.
Et ça, physiquement, ça va coûter sur tous les joueurs.
Là,
et on sait que cette
matchs.
Année, les joueurs rochelais ont quand même un petit peu de pépins physiques.
Exactement.
De pépin
et puis, l'infirmerie, on en parlera. donc il faut qu'ils gagnent, en gros, leurs 6 matchs de championnat qui restent. Donc, les 3 prochains, là, il faut qu'ils les gagnent pour être dans les 6.
Il y en a peut-être un qui est un peu plus
barrage,
facile.
Mais ça veut dire qu'après, en barrage, encore une fois, tu te déplaces. Donc, tu te déplaceras ou à Montpellier, ou à Pau, chez des équipes qui ont un peu eu l'occasion de faire tourner et reposer des mecs. Donc là,
je suis d'accord avec ce que vous avez
dit
la semaine dernière, Julien. Il y a un moment, les phases finales, c'est le reflet de la saison aussi.
Exactement.
Donc, voilà.
Alors après, qu'il soit dans les 6, pour moi, pour qu'il soit dans les 6, c'est pas impossible aujourd'hui. Mais je trouve qu'après, la marche, elle sera trop haute face à des équipes qui auront fait une meilleure saison que les Rochelais sur l'intégralité. Donc à voir. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète pour les Rochelais, c'est dans l'infirmerie. Parce que là, ils tirent sur les mecs quand même. C'est toujours les mêmes. Et physiquement, les mecs, il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout. Et ça, c'est difficile. Et déjà, contre Toulouse, dimanche soir, c'est un match à la vie à la mort, encore une fois. Et je pense que psychologiquement, c'est dur, des matchs à la vie à la mort toutes les semaines.
Oui, sauf que derrière, il y a un week-end de repos. Une semaine, un week-end de repos. Et après, 2 matchs. Ouais. Et tu vas à Montauban. Une chose, si La Rochelle bat Toulouse dimanche soir, ça donne à coup sûr une dernière journée de folie,
ouais,
en fait.
Ouais.
Ça, c'est, j'ai pensé là, ça veut dire que La Rochelle ira à Montauban. Attention, Montauban sera dernier match à domicile, mais ils partent de très loin pour gagner. Ça voudra dire une 26e journée avec en plus à La Rochelle Stade Français avec de feu. Et c'est ça, ça pourrait être génial. Bon, après les Toulousains peuvent venir éteindre l'incendie dimanche soir.
Exactement, avec des joueurs côté Rochelais qui vont aussi vouloir montrer ce dont ils sont capables. Je pense notamment à Grégory Aldrit ou même à Nolan Le Garec qui, on le disait, est dépositaire du jeu de La Rochelle, qui va se retrouver face à ce qui se fait de mieux en France avec Antoine Dupont, qui va vouloir peut-être montrer ce dont il est capable, tandis qu'Antoine Dupont va vouloir remontrer, comme la semaine dernière face à Toulon, que c'est lui le patron, Wilfried. C'est peut-être un duel qu'on va pouvoir observer dimanche soir.
En fait. Génial de les avoir, mais ils seront tributaires de leurs avants. Et j'ai l'impression que Le Garec, il vous montrera beaucoup de monde ces derniers temps. Mais d'ailleurs, il y a une dépendance. Je trouve que c'est le danger pour La Rochelle dans les mois futurs.
Et on parlait de blessures, c'est vrai que si tu tires sur ce genre de joueur...
Oui,
qui n'a pas été épargné par les pépins physiques cette année en plus.
Parce que dans la production de jeu, c'est un accélérateur de particules, quoi, Le Garec. Hein, il change le visage de l'équipe. Mais génial parfois, de les avoir face à face. Ouais.
Parfois, il faut qu'il regarde ses coéquipiers en disant « Ah merde, ils n'ont pas prévu de la jouer vite celle-là. J'arrête. »
Ah ouais, mais tu ne peux pas lui enlever.
Pour les autres.
Évidemment, tu ne peux pas lui enlever.
Ce qu'il fait à La Rochelle, là, c'est waouh.
Est-ce qu'on a des infos compo côté Rochelais, Wilfried?
Oui. Romain Asselin nous a soufflé des choses que ça pourrait être du Wardi, Latou, Sclavi, Kanté Samba qui a un petit pet au côté qui est un petit peu incertain, mais comme d'autres à La Rochelle, on serre les dents. Avec Cancorier en deuxième ligne, troisième ligne, Botia, Jégou et Aldrit, troisième ligne centre capitaine. La charnière, Le Garec, Astoy au centre, Setoni ou Favre avec la Guivala, Noël qui reviendrait à une aile, Niniashvili à l'autre aile et West à l'arrière qui fait des assez bons matchs. Il faut le dire, Yaya West qui va partir pour le Stade Français, tout comme Latou d'ailleurs, qui fait moins de fautes des gros matchs ces derniers temps, avec un banc avec Lespio, Penverne, Lavaux, Wakani, Saravi, Timo, Bergeon, Favre ou Sotoni, donc et Kuntelia, Boulanger qui devait revenir, elle se serait reblessée, et Leeds, Boudéan et Bourgarit pourraient revenir à Montauban. Ce serait une bonne nouvelle pour l'effectif Rochelais. La Rochelle qui a donné des nouvelles positives. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'infos concernant Mathias Haddad. Ils ont fait un petit communiqué comme quoi c'était plutôt positif, qu'il devait repasser les examens, mais c'était moins alarmant que prévu sur sa énième commotion qu'il a subie au Racing.
C'est un match qui devrait...
On va souligner aussi le mental d'Antoine Astoy. À la cave, oui, il y a deux mois, annoncé sur le départ, et qui revient là dans le groupe et qui fait lui aussi des matchs. Barré en équipe de France après la Coupe du Monde.
C'est vrai qu'on parlait de joueurs qui avaient envie de prouver. C'est dans ce moment-là.
Qui n'a pas dû vivre que des moments faciles et qui a entendu dire que O'Gara voulait plus de lui, qui est aujourd'hui titulaire. Voilà, faut souligner aussi le retour d'Astoy au premier plan. Non pas que ce soit un palois, mais c'était à souligner quand même.
Quand même, peut-être un petit peu. Messieurs, est-ce que vous avez des joueurs à suivre ce week-end, à observer, que vous nous conseillez? Wilfried, est-ce que tu en as un sous la botte?
Oui, j'ai un clairement toi. Moins à moins quand même.
Ouais, on cherche.
On a fait le tour.
Ça commence à être à sec là.
Désolé,
Léo
si
Michaud. À moins que je ne pense pas que vous ayez déjà parlé de Léo Michaud, le deuxième ligne. Qui a 18 ans, qu'on
en a
parlé.
Alors, pour tout dire, on en a parlé
deux fois.
Émissions. Nicolas nous a reparlé la semaine dernière.
Donc, t'as pas écouté le podcast la semaine dernière, en fait. C'est une honte.
Si, pourtant. Ou alors, j'ai dû m'endormir sur ce moment-là.
Nico a dit je vous parlais de Léo Michaud et Roxane a dit mais j'en ai déjà parlé. Bravo. Voilà, honte.
À l'occasion de Toulouse.
Vous connaissez Léo Michaud?
T'imagines Roxane que le chef il lui dit ouais, j'ai écouté le podcast.
Non, mais c'est fou.
Elle a pris
mais
c'est bien en plus. La grande délit de mensonge.
Il a pas, je l'ai écouté. Il a pas dû être assez convaincant, quoi. J'ai bien senti que il avait trouvé un joueur de dernière minute.
La grande délit de mensonge.
Bon, je vais faire une Nicolas Paul Orsi. J'en ai pas.
Écoute, tant pis. Julien, tu en as un, toi?
Il a dit qu'il avait toute une famille qui avait joué à Clermont, Léo Michaud, vous l'avez dit, non? Non? Son père, son grand-père, son oncle.
Non, je l'ai pas dit. Ça, je l'ai pas dit.
Moi, je le rajoute, tu vois. C'est le petit truc en plus.
Valentin Welch, sur ses pattes.
Valentin Welch, le pilier montpelliérain. que formé, que Johan Codillo a été cherché à Château-Renard, formé du côté de Arles, et qui fait partie des jeunes de la capsule montpelliéraine qui a été prêté en Pro D2 et qui gagne du temps de jeu, qui a fait des très bons matchs de Coupe d'Europe et qui est un pilier solide. Bon, du coup, les Montpelliérains, ils en ont des piliers. Ils en ont trois par... il a l'embarras du choix, trois droitiers, trois gauchers. Maintenant, en plus, il fait Tolofoa qui peut jouer aussi droitier. Donc voilà, il a l'embarras du choix en pilier, mais Valentin Welsh, qui profite de la blessure de Wilfried Mpatin, est un jeune pilier. On est en manque de droitier. Ben, c'est un droitier, c'est un gaucher qui a des très bonnes mains, qui a plein de gaz et sur lequel Johan Codulo parie aussi pour l'avenir. Et donc, il sera sur le banc à Castres. Mais voilà, ça fait partie des très jeunes joueurs montpelliérains qui poussent et que Johan Codulo met en avant depuis quelques semaines.
Très bien, merci Julien d'être le bon élève de ce
vous
podcast.
Vous connaissez Léo Michaud, autrement.
Bah écoutez, en tout cas, regardez Léo Michaud ce week-end. À force de le regarder, peut-être que vous allez vraiment le connaître.
Quatrième titularisation de suite. Ça, vous n'avez pas pu le dire parce que c'était...
Ben non, non, non. Il était sur le banc. Pas
ah ouais, il était sur le banc. Non, il n'était pas sur le banc la semaine dernière, Léo Michaud.
Non, pas la semaine dernière, mais la première fois que j'en ai parlé.
Ah, t'en as parlé. Non, troisième titularisation de suite, pardon. Oui, la quatrième en cinq matchs, voilà.
Voilà, tout à fait.
J'ai essayé, je me suis raccroché aux branches.
Bravo.
On s'excuse auprès de nos auditeurs. Hein. Mais bon, non, ça mais fait trois matchs qu'ils n'arrêtent pas de regarder Léo Michaud. Quoi, et... bah, regardez-le encore un peu. Vous n'avez peut-être pas tout vu.
De toute façon, ce match, on l'a dit, Pau Clermont, c'est le match à suivre de ce week-end. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Et évidemment, pour ne rien manquer, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes et puis mettez-nous des petites notes, ça nous aide beaucoup. Merci pour votre fidélité à tous et bon week-end. Ciao.